tous. Bon dimanche, Dieu vous bénisse. Vendredi soir, vous avez vu que je n'étais pas là, c'est pas parce que je m'amusais, bien que c'était très agréable quand même, puisque avec mon épouse, nous étions invités en tant qu'ambassadeurs de la paix à comment on peut expliquer ça, une soirée exceptionnelle au Palais des Congrès à Paris. Il y avait 3800 personnes invitées là, et sur les 3800 personnes, il y en avait à peu près 100, 150 qui faisaient partie des VIP, comme on dit, et nous étions dedans, c'est pas rien, hein. Alors que certains nous méprisent, d'autres nous honorent. Alors ça fait plaisir aussi, il faut le dire, hein, quand même, de temps en temps. Et là, on a pu... C'était une soirée organisée pour remercier et honorer les anciens combattants qui avaient participé à la guerre de Corée en 1950. Donc il y avait des généraux, il y avait des colonels, il y avait des soldats, enfin, il y avait toutes sortes de gens, avec des grades, avec des médailles. C'était assez impressionnant. Il y avait des ambassadeurs de toutes sortes de pays. En fait, c'est une tournée qui a lieu dans 16 pays, puisque 16 pays avaient participé à la défense pour défendre la Corée contre l'invasion des communistes à l'époque. C'était terriblement sanglant. 3500 soldats français sont allés se battre là-bas et 30% sont décédés ou portés disparus, sans parler de tous les blessés. Enfin, c'était épouvantable. Et ce soir-là, il y avait une soirée qui était organisée là. Il y avait des ballets, il y avait des chants, c'était donc tous des Coréens, des enfants de 9 à 15 ans. Et c'était magnifique, il y avait une quarantaine d'enfants qui étaient là pour faire ça. Ils font une tournée mondiale. Et c'était là, et on a pu serrer la main à toutes ces personnes, discuter avec quelques-uns, dont l'ambassadeur et son épouse de Bulgarie, que je vais rencontrer au mois d'octobre encore, pour une autre association, pour d'autres choses humanitaires. Voilà, donc c'est bien, c'était pas pour rien, on a pris des contacts, et voilà, on espère qu'il y a quelque chose de positif qui va sortir de là, et on était très, très contents d'avoir été invités, on était surpris, mais très contents. On a amené Élise avec nous, une petite fille qui était contente de voir des enfants de son âge qui dansaient, c'était joli, hein Élise, c'était très très beau. Et puis tout ça, c'était sous le parrainage de... Boutros Ghali, enfin toutes sortes de gens de l'ONU, enfin bon, ça nous fait tout drôle de côtoyer ces gens-là, mais voilà, que Dieu soit béni, c'était pour vous dire où j'étais vendredi, c'était pas pour rien. Et puis je voudrais vous donner aussi des nouvelles. Nous sommes allés, vous rappeler, je vous ai dit dimanche passé de prier pour notre frère Michel Codefir qui depuis le mois de juillet, on a appris finalement depuis le mois de juillet, on lui a découvert un cancer. En fait, il souffrait à l'épaule. Vous savez qu'il est ingénieur, il travaille sur des plateformes pétrolifères. Il a découvert qu'il avait une douleur à l'épaule. Il est allé voir qui de droit, un médecin qui lui a dit non, ça n'a rien à voir avec votre épaule, c'est la grande veine qui part de votre foie jusqu'à votre épaule qui fait que vous avez mal. Vous devriez aller voir quelqu'un pour votre foie. Il est allé voir et là, ils l'ont découvert. Un cancer qui touche le foie, le pancréas. Ils l'ont ouvert 4 fois. Là, il doit passer encore par une opération. Enfin bon, il a les voies biliaires bouchées. Et c'est assez désespéré. Et nous avons été le visiter avec Michou. On est rentré dans la chambre et nous avons eu de la peine à le reconnaître. Il a perdu 33 kilos. Et vous vous rappelez, il avait prêché là. Et puis, il y avait un autre pasteur qui était là, le pasteur Foucard du top chrétien qui était là, puis d'autres sont venus, le pasteur Joutet, je ne sais plus qui. Et avec le pasteur Foucard, on a prié pour lui et on a bien chassé cet esprit de mort au nom de Jésus-Christ. Et il avait la foi, ça le réjouissait, on voit. Après, il a même ri un peu avec nous, c'était bien. Sylvie est arrivée, donc son épouse, et c'était un bon moment. Et puis on est resté une heure et demie, puis après on est parti. Et puis Sylvie nous a téléphoné, c'était vendredi justement, on arrivait au Palais des Congrès, au parking on était, et son épouse, donc Sylvie nous dit, écoutez, c'est formidable, depuis dimanche, il remange et il digère, c'est-à-dire qu'il ne vomit plus, ce qu'il ne faisait plus depuis longtemps. Hein. Donc on est content, ils disent, voilà, quelque chose s'est passé dans son corps, ils sont réjouis, ils disent, mais par contre, on a juste après votre visite, il y a des chrétiens qui sont passés et qui sont venus avec... des paroles destructrices au possible. Ils ont commencé à dire qu'ils avaient eu une révélation comme quoi Michel avait péché entre l'âge de 17 et 19 ans, je crois. Il n'était pas converti à l'époque. Hein. Et que c'est à cause de cela qu'il attrape un cancer, qu'il faut qu'il cherche et qu'il se mette en ordre avec Dieu. Et ainsi, oui, tu as raison, quelle horreur. Quelle horreur. Mes frères et sœurs, écoutez, vous qui m'écoutez sur Internet, Des fois, je reçois des lettres de vous, quelques-uns d'entre vous, qui me disent « Oui, Michel, tu tapes beaucoup sur les chrétiens, sur les églises. » Mais vous voulez que je fasse quoi d'autre ? J'en fréquente très peu, et quand j'en trouve, je trouve des âneries comme ça. Mais comment voulez-vous que je me taise ? Je ne peux pas me taire. Il faut que je dise « Mais stop à la crétinerie ! On est des chrétiens, on n'est pas des lapins crétins !» Enfin, il y a des lapins crétins parmi nous, je vous assure. C'est effarant. Il faut faire quelque chose. Il faut dénoncer ça. Ce sont des gens dangereux, cruels. Vous vous rendez compte, cet homme sur son lit, là, souffrant, et venir lui dire des « Mais excusez-moi, il n'y a que des gros mots pour pouvoir qualifier des choses pareilles. C'est honteux de dire une chose pareille. » Et j'ai eu beaucoup de peine à dormir cette nuit-là, non pas à cause des balais merveilleux qu'on a vus, mais à cause de cette horreur que j'ai entendue. Et j'ai dit à Jésus, « Écoute, Seigneur, inspire-moi un message pour dimanche. » Pour dénoncer cette chose-là, parce qu'il faut dénoncer ces choses. Et puis, si vous n'êtes pas content, et si vous voulez entendre que des choses positives et gna gna gna, eh bien, alors coupez tout de suite Internet, parce que ce matin, je vais dénoncer ces bêtises qui circulent dans les milieux chrétiens, superstitieux, méchants, bêtes et méchants. Harakiri, le journal Harakiri, au moins, eux, ils disaient, c'est un journal bête et méchant. Ils avaient l'honnêteté de dire qu'ils étaient bêtes et méchants. Les chrétiens se disent remplis d'amour. Ah ben, dis-donc, un amour comme ça, ils peuvent se le garder, j'en veux pas. Ouh ! Seigneur, aide-moi à pas être amer. Mais voilà, je veux dire des choses claires, nettes aujourd'hui, et je prie pour que vous l'écoutiez jusqu'au bout, et que vous compreniez la grandeur, la bonté de l'amour de Dieu, et que vous arrêtiez d'associer Dieu à des âneries et des méchancetés pareilles. Voilà pourquoi, ce matin, je veux parler. Je suis un prophète en colère, en quelque sorte. Et je voudrais qu'on commence par Hébreux 12, 5 à 15, s'il vous plaît. Michel, si tu m'écoutes, Dieu te bénisse pendant cette prédication. On va lire déjà verset 3. « Considérez en effet celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs, afin que vous ne vous lassiez point l'âme découragée. » Regardez, par exemple, ça veut dire, regardez à ce que Jésus a souffert de la part des pécheurs, alors ne soyez pas découragés, n'est-ce pas, des difficultés. Hein? Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en luttant contre le péché. Jésus, oui, jusqu'au sang, il a résisté, il a lutté, et il en est mort, hein? Jusqu'à la croix, il est mort, là. Alors, « Et vous avez oublié l'exhortation qui vous a été adressée comme à des fils. » Mon fils, ne méprise pas le châtiment du Seigneur et ne perds pas courage lorsqu'il te reprend, car le Seigneur châtie celui qu'il aime et il frappe de la verge tous ceux qu'il reconnaît pour ses fils. Supportez le châtiment. C'est comme des fils que Dieu vous traite, car quel est le fils qu'un père ne châtie pas ? Mais si vous êtes exempt du châtiment auquel tous sont part, vous êtes donc des enfants illégitimes et non des fils. D'ailleurs, puisque nos pères, selon la chair, nous ont châtiés et que nous les avons respectés, ne devons-nous pas bien plus, à forte raison, nous soumettre au Père des esprits pour avoir la vie ? Nos pères nous châtiaient pour peu de jours, comme ils le trouvaient bon, mais Dieu nous châtie pour notre bien, afin que nous participions à sa sainteté. C'est vrai que tout châtiment semble d'abord un sujet de tristesse et non de joie, mais il produit plus tard, pour ceux qui ont été ainsi exercés, un fruit paisible de justice. Amen. Alors oui, Dieu châtie, mais bien sûr que Dieu châtie. Écoutez-moi bien, Paul est en train d'écrire à ses disciples, à des disciples de Jésus-Christ en fait, qui sont donc des enfants de Dieu, des fils légitimes de Dieu, ce n'est pas des bâtards, ce n'est pas des fils du diable, c'est des fils de Dieu. Et il leur dit que Jésus a passé par des souffrances terribles, qu'il a souffert la mort à la croix et qu'il a méprisé l'ignominie. Que signifie cela ? En mourant sur la croix, Jésus était un homme qui avait perdu tout son honneur. Le dictionnaire nous parle de ça. Pour quelle raison avait-il perdu tout son honneur ? Parce qu'il avait commis des choses infamantes. Ah bon, vous allez me dire, mais quoi ? L'ignominie dans le dictionnaire, ça veut dire, c'est l'état de quelqu'un qui a perdu tout son honneur à cause de grandes fautes commises. Quelles actions infamantes Jésus avait-il commises ? Pas une ou deux, mais toutes celles qu'un homme ou qu'une femme peut commettre, et pas seulement qu'un homme ou une femme, mais tous les hommes et toutes les femmes de toutes les générations sur la terre, tout ce que les gens ont pu faire, moi compris, Jésus l'a pris sur lui et ça lui a fait perdre tout son honneur. Toutes nos actions pécheresses, tout ce dont nous nous étions rendus coupables, eh bien, tout ça, il a pris ça sur lui. Il était au plus bas qu'on peut être, sur la croix, Il a sombré dans l'ignominie. Dans la mort. De la perte de tout son honneur. Mais ça, il l'a méprisé. Il a méprisé cette ignominie. Lui qui n'avait jamais rien fait de mal, il a pris le châtiment que nous méritions, nous dit le prophète Ésaïe. Et quel châtiment méritions-nous ? La mort, la séparation d'avec Dieu, le châtiment ultime, voilà ce que nous méritions. Or, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui à la croix. Mais savez-vous, il a méprisé l'ignominie. Il nous aimait tellement qu'il n'a pas eu honte de prendre nos péchés sur lui et de perdre son honneur. Il a pris sur lui non seulement nos péchés, mais la mort dégradante que nous méritons. Dans les statues et les peintures catholiques, on nous représente Jésus sur la croix. Il était nu, il n'avait pas un petit pagne. Hein. Ils l'ont exposé nu devant tout le monde. Craché au visage, insulté. Enfin, et il a pris tous ces démons, toutes ces horreurs qui étaient là. Lui seul pouvait être châtié à notre place. Pourquoi ? Parce que lui seul pouvait se relever d'un tel châtiment. Si nous avions été châtiés de la colère juste de Dieu, nous ne serions pas relevés. Nous serions morts, mais nous ne serions pas ressuscités. Lui pouvait porter ça parce que lui pouvait, avait le pouvoir de la résurrection. Il a subi à notre place, il est mort à cause de nos péchés. Jamais on pourra manifester assez de gratitude envers Jésus-Christ, notre Dieu, qui a par amour donné sa vie pour nous. C'est là qu'on comprend le texte qui dit « Ton amour vaut plus que la vie ». Mes frères et sœurs, aujourd'hui, nous avons été rachetés. Aujourd'hui, nous qui l'avons reçu, nous avons reçu Jésus-Christ. Nous l'avons reçu parce qu'il nous a attirés à lui, c'est lui qui nous a cherchés, c'est même pas nous qui le cherchions, c'est lui qui est venu nous chercher. Il nous a cherchés pourquoi ? Il nous a attirés pourquoi ? Parce qu'il nous a reconnus pour ses fils et pour ses filles. Pour les siens, il a dit qu'il est venu chercher et sauver les siens. Ça veut bien dire qu'il y en a d'autres qui ne sont pas à lui. C'est les fils du diable. Les fils du diable ne sont pas les pécheurs que vous voyez dans la rue. Parmi les pécheurs que vous voyez dans la rue, il y a des gens qui sont des fils de Dieu, mais Dieu ne les a pas encore attirés, ne les a pas encore appelés. Mais il y a des fils de Dieu qui sont encore dans le péché, comme nous étions dans le péché avant notre conversion. Mais nous étions de toute éternité fils de Dieu. Mais le diable est venu, il a semé sa semence, livrée. Et ça, c'est les bâtards, c'est pas les fils de Dieu, c'est les bâtards, c'est des gens qui sont les fils du diable. Ça n'a rien à voir, Dieu n'est pas venu pour chercher ces gens-là. Et Dieu ne les punit pas, ces gens-là, il les laisse, il les livre à eux-mêmes, ils se débrouillent entre eux, ils sont avec leurs démons et machin. Jésus est mort pour les siens. Alors, il dit, ne vous découragez pas. Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en luttant contre le péché, Hébreux 12:5. Aucun lecteur de Paul, quand Paul écrit cette lettre, n'avait encore subi des persécutions à ce point-là, de mourir, n'est-ce pas ? Mais mes frères et sœurs, quelques temps plus tard, les chrétiens ont dû donner leur vie, vraiment mourir, sous la main des pécheurs, à cause de leur foi. Et Paul lui-même a été persécuté à cause de sa foi. Il a souffert. Et les souffrances qu'il a subies n'avaient rien à voir avec le châtiment de Dieu. Il ne faut pas, parce qu'un chrétien souffre, penser que c'est parce qu'il est puni. Et il arriva qu'il a dû souffrir de bien des manières, nous dit la Bible. A-t-il seulement une seule fois pensé que ses souffrances étaient peut-être un châtiment divin ? Non, jamais. Quand Paul a laissé Trophime malade à Millet, 2 Timothée 4:20, Paul s'est-il demandé une fraction de seconde, est-ce que Tite aurait peut-être commis un péché et peut-être que c'est à cause de ça que Trophime est malade et que quand on prie pour lui, il ne se passe rien ? Non, il persévérait dans la prière, c'est tout, et puis il laissait les choses agir comme elles devaient agir. Il fallait laisser Trophime se reposer un peu à Millet, il l'a laissé, et puis c'est tout. Il n'a pas commencé à culpabiliser Trophime. Paul était un homme qui connaissait Dieu. Et quand on connaît Dieu, on connaît ce qu'il dit, ce qu'il veut, on connaît le Saint-Esprit, on ne se trompe pas. Ben, oui, Dieu châtie, ça c'est certain. Il châtie ceux qu'il aime, Apocalypse 3, 19, hein, c'est écrit. Il châtie ceux qu'il aime. Il châtie ses fils, il châtie ses filles. Il ne châtie pas ceux qui ne lui appartiennent pas. J'aime bien la version parole vivante d'Alfred Kuhn. Il dit, il ne châtie pas les bâtards. Carrément, hein, le mot bâtard, j'aime bien. Ouais, Hébreux 12, 8. Le second, il est très poli. Hein. Par exemple, vous savez, quand Paul dit « Je regarde tout comme de la boue », en réalité, c'est fumier. Pour pas dire merde. Mais le second est très poli. Alors, il dit « De la boue ». Et là, il dit « Fils illégitime ». Le texte, c'est « Bâtard ». J'aime. Il faut dire les mots. Oh, les petits chrétiens frileux. Il y a le mot « bâtard » dans la Bible. Ben oui, il y a le mot « bâtard » dans la Bible parce qu'il y a des bâtards partout. C'est tout. Puis alors, la Bible, elle parle de tout. Voilà. Bon, donc, Dieu nous châtie, nous, ses enfants. Alors, comment châtie-t-il? Eh bien, nous venons de lire « comme un père qui châtie ses enfants », Hébreux 12, 7. « Comme un père ». Alors, c'est vrai qu'il peut y avoir des degrés dans les châtiments qu'on inflige à nos enfants. Mais vous qui êtes papa, par exemple, et puis même si vous n'êtes pas papa, vous allez comprendre. Enfin, vous avez au moins eu un papa ou vous avez des papas autour de vous, puis vous avez un sens. Si vous êtes normal mentalement, vous savez comment on châtie un enfant. En France, on en est arrivé à dire que mettre une gifle à un enfant, ce n'était pas légal. Question, serions-nous en France plus gentils, meilleurs, plus civilisés que Dieu qui enverrait un cancer du foie à ses enfants parce qu'ils ont commis un péché il y a 40 ans en arrière? Le châtiment mortel a été fait une fois pour toutes et c'est sur Jésus que c'est tombé. Alors, pourquoi? Afin qu'il ne tombe pas sur nous. Afin que ce châtiment qui apporte la mort ne tombe pas sur nous. Il ne tombe pas sur nous à cause de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ sur la croix. Amen. Amen. Alors, quel châtiment Dieu va-t-il vous infliger si vous avez péché? Mes frères et sœurs, le châtiment de Dieu, qu'est-ce que c'est ça, le châtiment de Dieu? Le sentiment de l'amour du Père, son sentiment d'amour pour nous a ôté à la souffrance qu'occasionne le châtiment son aiguillon de mort, il l'a ôté. Mettez-vous ça dans la tête une fois pour toutes. Le sentiment d'amour du Père a ôté l'aiguillon de la mort, de la souffrance qui peut arriver lorsque vous êtes châtié. Le châtiment que nous subissons en tant que fils et filles de Dieu nous consomme. Savez-vous ce que signifie le mot « consommer » ? Il y a plusieurs significations. Le châtiment que nous subissons en tant que fils et filles de Dieu nous consomme dans le sens de nous mène à terme. Voilà ce que le dictionnaire dit. Consommer, c'est mener à terme. Ce n'est pas seulement bouffer au McDonald's. C'est-à-dire que le châtiment, il nous fait mûrir. Pas mourir, mûrir, pas mourir. Jamais, jamais. Où il est écrit mort, où et ton aiguillon. Pas plus. Ces châtiments, les châtiments de Dieu sont l'épreuve spéciale de son amour et de sa grâce envers nous. Dieu nous châtie parce qu'il nous aime. Dieu nous châtie tout en nous aimant. Qu'est-ce que vous diriez-vous d'un papa qui surprendrait son fils ou sa fille en train de faire des bêtises et qui dirait
« Mon fils, ma fille, tu as péché. Et parce que je t'aime, je vais te punir en t'injectant dans tes veines le virus du sida. »
Autant couper la tête au gamin pour lui apprendre à vivre. C'est comme je dis des fois, coupez-lui la tête, ça lui fera les pieds. C'est stupide, c'est harakiri, c'est Monty Python, c'est bête et méchant. Mais ça ne peut pas être dans la Bible. Ça ne peut pas venir du cœur de Dieu. Ça vient du fin fond, du fond, de l'éraclure, du fond de l'enfer, des pensées comme ça. C'est de la stupidité. Penser aussi stupidement, ça révèle que quelque chose de bien sombre est tapis dans l'ombre de ceux qui le pensent et qui le disent, mes frères et sœurs. Vraiment. Pas seulement une ignorance crasse, mais aussi de la méchanceté. Comprenez-vous quelque chose à l'amour de Dieu? Les châtiments que Dieu réserve à ses enfants viennent en vue d'une correction, pas d'une destruction. Jamais, jamais. Il ne châtie que les siens, mais il ne leur envoie jamais une maladie. Jamais, jamais. Jésus est clair, la Bible est claire. Il a passé son temps sur la terre, Jésus, à parcourir tout Israël en guérissant les malades, détruisant l'œuvre du diable. La maladie est une œuvre du diable que Jésus s'est plu tout le temps à détruire, détruire, détruire. Et il continue aujourd'hui par ses serviteurs à détruire les œuvres du diable en guérissant les malades. Oh, et Job, alors, hein? Et Job, alors, hein? Et Dieu a bien permis au diable, hein? Oui, 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 oui. Mais est-ce que c'était un châtiment qu'il avait là, Job? Non. Il n'y a que ses amis charnels, religieux, méchants et crétins qui ont été suffisamment bêtes pour aller lui dire des choses pareilles. Ça venait du diable. La Bible nous dit, si le mal atteint souvent le juste, l'Éternel l'en délivre toujours. Vous savez, j'ai connu un pasteur des Assemblées de Dieu, Roland Burki des Andelys. Je le dis, il disait assez d'âneries pour qu'on puisse dire son nom pour le citer. Au club des records. Un jour, je l'ai entendu prêcher à Châteaudun, et il a dit, parce qu'il y avait un frère qui n'était pas là, et une sœur a dit, il est malade aujourd'hui, il n'a pas pu venir. Il a dit, oh, il a certainement péché. En tout cas, moi, le jour où vous apprendrez que je suis malade, vous saurez que c'est parce que j'ai péché. Frères et sœurs, j'ai appris dernièrement, il est mort. Que je sache, il n'est pas mort écrasé par une juve à quatre. Et le pasteur Le Cossec, grand homme de Dieu s'il en est en France, il est mort de maladie, non? Qu'avait-il fait comme péché pour mériter un tel châtiment? Vous voyez, est-ce que vous pouvez mesurer l'étendue de la bêtise d'une telle croyance? Cette bêtise, elle a une sœur jumelle qui a pour nom méchanceté. Hébreux 12, 7 nous dit en français, supportez le châtiment. Voyons le grec, Hébreux 12, 7. En correction, vous souffrez. Voyez la différence? Supporter le châtiment ou en correction, vous souffrez. Dans une autre lettre aux Hébreux qu'on a retrouvée, parce qu'il y a plusieurs manuscrits, grec aussi, c'est écrit souffrez la correction. Vous voyez la différence? La correction peut faire souffrir, mais pas mourir. Pas mourir. Certains lapins chrétiens disent que Branham est mort de mort violente et c'est la preuve qu'il avait péché. Ces lapins crétins ont de la chance que je ne suis pas Dieu parce que si j'étais Dieu, leur compte serait vite réglé. Je suis moins patient que Dieu. Hein? Tous nos péchés, mes frères et sœurs, ont été portés à la croix. Ceux que nous avons faits avant notre conversion et ceux que nous avons faits depuis notre conversion et même ceux que nous ferons après. Je dirai demain ou ce soir, tout à l'heure. Jésus a tout porté, il s'est chargé de nos péchés. Ces péchés que nous avons faits nous avaient placés dans la position de condamnés à mort. Mais Jésus est mort à notre place. Aucun enfant de Dieu ne meurt parce qu'il a péché. Aucun. Est-ce que c'est clair? Priez, mes frères et sœurs, pour que des religieux, lapins chrétiens, écoutent ça. Et se mettre un petit peu d'intelligence dans la tête. Jésus est venu pour faire vivre et non pour faire mourir les siens. Il s'est chargé de nos péchés, des maladies. Il s'est chargé des maladies qui sont apparues sur la terre à cause du fait que nous avons que l'humanité a rejeté Dieu. Évidemment, c'est sûr que si vous vous saoulez la figure toute la journée, vous risquez d'avoir des problèmes. C'est sûr. Mais en règle générale, c'est pas parce que quelqu'un a péché que tac, il est malade. La maladie, c'est quelque chose qui atteint tout le monde. C'est des impondérables, c'est comme ça. Maintenant, un chrétien n'a pas à faire d'introspection quand quelque chose de mal lui arrive. Une maladie nous arrive, ça vient du diable, c'est clair. Et nous avons le pouvoir de la chasser au nom de Jésus, c'est clair. Un châtiment nous arrive, c'est-à-dire un truc qui nous fait souffrir, eh bien, pas d'introspection. Stop à l'introspection. Un chrétien ne fait pas d'introspection. Un vrai fils a un vrai père, pas un papa bidochon. Écoutez ce papa bidochon. Mon fils, je te punis et tu ne pourras plus regarder la télévision pendant 2 mois.
Ah bon, papa, pourquoi? J'ai fait quoi?
J'ai pas à te le dire. T'as qu'à chercher toi-même. Qui cherche, trouve.
Mais papa, je vois pas ce que j'ai pu faire de mal.
Bon, je vais t'aider. Je vais raconter à des gens que tu as fait quelque chose de mal, il y a 3 ans en arrière, et ils vont venir t'aider à chercher qu'est-ce que c'est.
Mais papa...
Il n'y a pas de mais. Cherche. Introspecte-toi. Bon, je retourne devant la télé voir le foot avec une pelle forte. Bye bye. Hein? Que cherche, trouve.
Nerf, 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 nerf.
Non, aucun père mentalement sain n'agirait ainsi, mes frères et sœurs. Vous êtes bien d'accord avec moi. Et notre Père Céleste non plus n'agit pas comme ça. Il vient et par son esprit, il nous convainc de pécher à mesure que nous les avons faits. N'est-ce pas comme ça qu'il agit? Vous faites quelque chose de mal, tout de suite, le Saint-Esprit parle à votre conscience, tout de suite. Il ne va pas vous laisser traîner de 17 ans à 50 ans pour finalement vous ficher un cancer du foie, pour vous dire
« Oui, quand tu avais 17 ans, tu avais fait un péché, il faut que tu cherches quoi ?»
Non, mais c'est quoi? Des gens remplis du Saint-Esprit, ça? Avec des dons surnaturels de révélation, ça? Mon Dieu, dans quelque temps, je crois que je vais publier que je ne veux plus qu'on m'appelle chrétien. J'ai honte de ce nom, honte, de plus en plus honte. Disciple de Jésus-Christ, oui, mais pas chrétien, quelle horreur! Mais quel fleuve de boue, de bêtises qui peut se promener là. C'est effrayant. Mes frères et sœurs, Dieu n'est pas un vicieux. Par contre, ceux qui croient que Dieu est vicieux comme ça sont des gros vicieux eux-mêmes. Et de l'abondance de leur cœur vicieux, leur bouche vicieuse parle. Ne les écoutez pas. Ne les écoutez pas. Charles Janton, mon père... C'était un père correcteur dans le sens biblique. Un correcteur, bibliquement, en grec, c'est un éducateur. C'est comme ça. Mon père naturel, il m'a donné la vie, et la seule chose qu'il pouvait faire après, c'était de m'éduquer, c'est-à-dire former mon âme, mon esprit, m'aider à me développer, à développer mes aptitudes intellectuelles, à développer mes aptitudes physiques, morales. Et il m'apprenait les usages de la société, les bonnes manières. Vous avez remarqué toutes les bonnes manières, n'est-ce pas? Ça, c'est le résultat de l'éducation de mon père. Hein? Et puis, quand ça n'allait pas, il me corrigeait. Et notre Père Céleste, le Père des Esprits, celui de qui procède toute vie spirituelle, nous éduque aussi. Et il emploie le moyen de l'épreuve intellectuelle, physique, mentale. Et il corrige ce qui doit l'être. Par amour, dans l'amour, pour nous faire vivre mieux et pour que nous honorions la famille céleste de laquelle nous faisons partie, dont il est le Père. Dieu nous éduque, c'est-à-dire il nous châtie, il nous punit s'il y a besoin, oui, il ne fait pas que ça. Mais il ne rend personne malade pour lui apprendre quelque chose, jamais. Il ne prend personne malade pour le sanctifier. Jamais. Ça, c'est catholique. Une telle pensée, ça vient du fond de l'enfer. Tout au fond, il y a des pensées comme ça. Penser que Dieu peut envoyer un cancer à un de ses enfants par amour, c'est une insulte à Dieu. C'est un outrage à son amour parfait. C'est un blasphème qui mérite une correction sévère. Évidemment, si vous avez traîné vos guêtres dans l'église du pasteur Roland Burki ou d'autres crétins lapins dans ce genre-là, vous avez été endoctriné, c'est sûr, vous êtes tordu. Alors je vous en supplie, instruisez-vous à genoux en lisant la Bible et laissez-vous inspirer par le Saint-Esprit si c'est encore possible. Paul le dit, oui, le châtiment, ça rend triste, c'est vrai, triste, oui, voilà. Mais il dit, ne vous attristez pas de cette première impression douloureuse, regardez au résultat final. Résultat final, c'est quoi le résultat final? C'est le fruit, le résultat final. Il dit, le résultat de justice, la sainteté dont Dieu veut vous rendre participant par l'épreuve. C'est aussi la source de la vraie paix. Je voudrais lire Ésaïe. 32-17, pour que vous sachiez qu'est-ce que c'est le fruit de justice. Ésaïe 32-17, parce qu'on dit, fruit de justice, c'est quoi fruit de justice? 32-17. L'œuvre de la justice sera la paix, et le fruit de la justice, le repos et la sécurité pour toujours. Voilà le résultat. Voilà pourquoi l'épreuve. Voilà à quoi il mène. Vous êtes malade ? Ce n'est pas un châtiment de Dieu. Ce n'est même pas une épreuve que Dieu vous envoie. C'est une œuvre du diable contre laquelle vous devez lutter au nom du Seigneur Jésus-Christ. Vous devez lutter au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et vous devez lutter parce que si la maladie vient de Dieu, il ne faut pas lutter contre. Mais si elle vient du diable, il faut lutter contre. Mais si la maladie vient de Dieu, il ne faut pas lutter contre. Et puis, il ne faut surtout pas aller à l'hôpital, il ne faut pas aller voir les médecins, parce que si c'est Dieu qui envoie la maladie, c'est un cadeau de Dieu, il faut le garder bien précieusement. Moi, quand ma femme me fait un cadeau, je ne m'en débarrasse pas, je le garde bien précieusement, c'est un symbole de son amour. Si Dieu vous envoie un cancer du foie, gardez-le bien, surtout n'allez pas vous faire soigner. Parce que tous les médecins qui veulent enlever le beau cadeau que Dieu vous a fait par la chimiothérapie et par toutes sortes de traitements, tous ces médecins sont des suppôts du diable, puisqu'ils veulent enlever ce que Dieu vous a donné dans son grand amour. Non ? Et si la maladie vient de Dieu, ne l'enlevez surtout pas, gardez-la. Ne vous soignez pas, le don de Dieu, mais c'est un grand bonheur. Prions pour que le Seigneur nous envoie de tels cadeaux. Prions les uns pour les autres. La maladie vient du diable, mes frères et sœurs. Faites ce que le médecin spécialiste vous dit de faire et priez. Tant qu'il y a de la vie, priez, chassez le mal. Et par la même occasion, pendant que vous êtes en train de chasser le mal, chassez au nom de Jésus tous les lapins crétins qui viennent vous culpabiliser. Et chassez-les, mettez-les. Vraiment, chassez-les. Dieu est celui qui guérit. Il se sert de gens comme l'apôtre Luc qui priait pour les malades, mais qui était aussi médecin. Ne méprisez pas ces envoyés de Dieu que sont les médecins. Vous avez besoin de médecin ? Allez voir un médecin. Rien n'empêche que vous pouvez prier. Ma femme est malade. Elle va voir le médecin. Je suis malade. J'ai été opéré du cœur. J'ai été voir un médecin. Vous êtes malade ? Allez voir un médecin. Oui, mais la Bible dit... Mais... Si vous allez voir un médecin, que vous mettez toute votre confiance dans le médecin, que vous ne priez pas, oui, là, vous faites quelque chose qui n'est pas bien. Mais si vous priez pour que Dieu dirige la main de votre chirurgien, par exemple, mais c'est une bonne chose. Non ? Mais bien sûr, mes frères et sœurs. Chassez le mal avec ardeur, et si vous n'avez plus d'ardeur, demandez à ceux qui en ont de prier pour vous. On est là pour ça, pour vous aimer, pour vous bénir, pour être avec vous. Battez-vous contre cette saleté de maladie. Battez-vous. Et on va se battre avec vous. Si un chrétien vient vous culpabiliser maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire ? Je vous ai dit, chassez-le au nom de Jésus. Vous lui donnez mon adresse. Vous l'envoyez chez moi, et je vais lui expliquer... avec mon 43 glorifié dans son joufflu religieux, la doctrine de la bonté de Dieu. C'est mon 43 glorifié, j'ai chose du 43. Vous avez compris ? Je suis un peu énervé là, mes frères et sœurs, c'est mon ami à qui on a fait ça. Redressez-vous, soyez remplis de l'esprit de hardiesse contre la maladie. Et quand je prêche un message comme ça, je prêche contre la maladie. Je prêche pour la guérison, je prêche pour le bien-être, je prêche pour la bonté, pour l'amour, pour tout ce que Dieu veut nous donner. Tout don excellent vient de Dieu, du ciel, amen. Tout le reste, ça vient du diable, de l'enfer et de notre pauvre condition de mortel. Mais mes frères et sœurs, tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Continuons à prier, continuons à lutter. Regardez notre frère, maintenant il commence à manger. Et il n'en est pas encore à manger un steak frites, mais il commence à manger. Il tient ça, il ne vomit plus. Gloire à Dieu, c'est bon, on continue, on continue, on continue, on continue. Allez-vous continuer ? Amen. Nous sommes 50 000 sur Internet. On continue à prier. Mon frère Osborne m'a déjà envoyé 2 lettres pour me dire, il continue à prier. La sœur Osborne est décédée suite à un problème de diabète. Et alors, est-ce que c'est parce qu'elle avait péché ? Oh oui, sûrement, avec ses perruques, puis avec ses fossiles, puis ses faux ongles. C'est ça, Dieu l'a puni, cette Jézabel.
Bon, heureusement, frères et sœurs, dans le paradis, il y a plusieurs demeures, dans la maison de mon père, et je suis sûr que Dieu ne va pas me mettre avec ces crétins lapins. Il va les prendre dans son paradis, parce qu'il les aime, il aime bien les crétins aussi, mais il ne me mettra pas avec eux, parce qu'on passe l'éternité avec des crétins lapins comme ça. Non, non, mon Dieu, que Dieu me garde, mon Dieu, que Dieu me garde. Heureusement que Jésus a dit, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon père. Oh. Amen. Frères et sœurs, prenez votre guérison par la foi. Si ce matin vous souffrez, Levez-vous, mettez votre main là où vous souffrez, nous allons prier pour vous. Et puis, allez chez le médecin, allez faire constater quelque chose. Et s'il y a encore quelques soins qu'il peut vous apporter, remerciez Dieu des bonnes choses, l'intelligence que Dieu a mis dans la tête de ces médecins pour pouvoir vous aider à développer une guérison plus rapidement, mieux. Amen, ne soyez pas peureux. Quand je me suis marié, ma femme, elle avait peur d'aller chez le médecin. Elle disait, oui, toi, tu prêches l'évangile, tu as des guérisons miracles, puis moi, je suis malade, je suis un mauvais témoignage. Voilà ce qu'on avait inculqué dans ces églises pentecôtistes. Pardon, peut-être que ça vous fait du mal, ce que je vous dis, mais il faut que je charcute là-dedans, parce que c'est tellement méchant, c'est tellement cruel, ces doctrines et ces idées qui circulent dans ce milieu-là. C'est tellement cruel. Depuis que ma femme se soigne, tout va bien, n'est-ce pas, chérie? Tout va bien. Voilà. Quand elle va à l'hôpital, une fois par mois à peu près, une fois tous les deux mois, eh ben le médecin réunit tout son staff et tous les étudiants pour la citer en modèle. Regardez, voilà une femme formidable. Eh bien, il n'y a aucune séquelle pour son diabète. C'est fantastique, c'est merveilleux. Mais il faut dire aussi qu'elle a un mari qui est avec elle et qui la soutient et qui l'aide et qui fait ses analyses et qui la soigne quand elle fait, s'il lui arrive de faire un malaise. Et puis voilà. Et puis, ce sont des gens de foi. Oh, vous voyez, mes frères et sœurs, ça rend gloire à Dieu, ça aussi. Amen. Le mal atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours d'une manière ou d'une autre. Mes frères et sœurs, ne soyez pas obtus. Ne soyez pas des lapins chrétiens. Mon Dieu, pardonnez-moi si vous trouvez que j'étais un peu sévère ce matin. Et je ne suis pas amer, je suis juste un peu en colère contre cet esprit religieux. Jésus, la seule fois où il s'est mis en colère, c'était justement contre des esprits religieux. Alors j'estime que j'ai le droit aussi, moi, de me mettre en colère de sa part contre les esprits religieux. Que Dieu vous bénisse. Mettez-vous debout, mettez la main là où vous souffrez, nous allons prier pour vous. Là, sur votre lit, là où vous êtes, mes frères et sœurs, avec Internet, si vous souffrez, mettez votre main là où vous souffrez et nous allons lutter contre cette maladie au nom de Jésus. Merci Seigneur, merci Jésus, parce que j'ai dit la vérité. La vérité, c'est que tu es un Dieu bon, un Dieu d'amour, un Dieu juste, un Dieu équilibré, un Dieu qui est un tendre Père, qui nous châtie, il est vrai. Et c'est vrai que ce n'est pas rigolo des fois, mais ça n'est jamais des châtiments qui nous terrassent à ce point-là. La maladie ne vient pas de toi, je le sais, je te remercie mon Dieu pour cela. Et je veux te prier maintenant pour tous mes frères et sœurs qui sont malades. Je peux te prier parce que je sais que je ne suis pas contre ta volonté quand je prie contre la maladie. Et je te demande, mon Dieu, de bénir mes frères et sœurs, tous ceux qui écoutent en ce moment. Oh, merci parce que tu m'exauces toujours et tu vas m'exaucer encore maintenant. Père, je te le demande dans le nom de Jésus, que ces gens soient délivrés. Maintenant, je m'adresse à tout esprit de maladie, qui que vous soyez, esprit de maladie, vous m'entendez? Au nom de Jésus-Christ, je vous lis. Et je vous ordonne de sortir de là. Vous sortez, je vous lis. Au nom de Jésus, vous ne revenez plus. Vous êtes maintenant dans l'impossibilité de revenir dans ce corps. Au nom de Jésus-Christ, que tout ce qui était abîmé dans le corps de mes frères et sœurs soit maintenant restauré par un miracle ou par une guérison. Que quelque chose arrive qui montre à mes frères et sœurs, qui les encourage et qui puissent voir que tu as touché leur cœur, touché leur corps. Merci Seigneur Dieu. Merci Jésus. Sois béni et glorifié. Merci Jésus. Amen. 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 Gloire à Dieu. Alléluia. Vous pouvez vous asseoir. Dieu vous bénisse. On voit demain encore 400 euros à un village qui s'appelle Gazma, quelque chose comme ça, juste à côté de Zan, parce qu'ils ont fait la moisson, mais là, il leur manque 4 semaines de nourriture pour tout le village. Et ils nous ont demandé, alors on va envoyer quelque chose. On peut envoyer 400 euros, on va le faire. Et comme ça, on va bénir ces gens. Amen. Donc, vous voyez, ça continue, on continue, on continue. On lutte contre la pauvreté, contre la maladie et contre la bêtise religieuse. Ça, vraiment. Que Dieu vous bénisse. À bientôt. Dieu vous garde. Amen.